Alors à la retraite, il paraît qu'il y avait donc quatre types de personnages, l'air, l'eau, la terre. Moi, on m'a dit tout de suite que j'étais la terre. Je ne sais pas si c'est un compliment. Je vais vous parler d'un personnage, je ne sais pas non plus s'il est de la terre, de l'air, du feu ou je ne sais quoi, mais c'est l'apôtre André. André, déjà, son nom en grec, c'est Andreos, c'est celui qui est courageux, celui qui n'a peur de rien. Et c'était un juif de Galilée, et c'est le deuxième apôtre qui est cité par Matthieu et par Marc. Et dans l'évangile de Jean, on sait que il fait partie des deux premiers disciples appelés. Et d'ailleurs, c'est lui qui va aller trouver Simon, l'apôtre Pierre, qui est son frère, pour le conduire à Jésus. Et donc, André, c'est un juif donc, qui est né à Bethsaïdie, en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade, hein, où on le retrouvera souvent avec son frère. Et donc, c'était un pêcheur. Et c'était quelqu'un qui recherchait Dieu, parce que vous vous souvenez sûrement que c'était le disciple de Jean le Baptiste. C'était un des disciples de Jean le Baptiste, et probablement que Jean le Baptiste l'avait baptisé. Et lorsque Jean Baptiste va voir Jésus, et qu'il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », eh bien, André ne va plus suivre Jean-Baptiste, il va le quitter et il va rejoindre Jésus. Et finalement, c'est le premier disciple appelé par Jésus, André. Hein, souvent, on parle des autres disciples, mais André est un personnage extrêmement intéressant et extrêmement attachant. Et pourquoi il est attachant ? Parce qu'il a servi souvent d'intermédiaire. C'est lui qui va, on vient de le voir, présenter son frère Simon à Jésus. C'est André qui va aller chercher Pierre et qui va lui dire « Viens voir, il y a quelqu'un qui est intéressant ». Et puis, lors de l'épisode de la multiplication des pains, c'est lui qui va aller chercher le jeune garçon avec les cinq poissons et les cinq pains. Et lorsque les Grecs veulent rencontrer Jésus, c'est lui encore c'est à lui qu'ils vont s'adresser et à lui qu'ils vont demander une entrevue à Jésus. Donc André, c'est vraiment l'intermédiaire entre Jésus et puis ceux qui sont autour d'eux. Alors, et même après la Pentecôte, selon la tradition, eh bien, il va aller prêcher partout, dans tout le bassin méditerranéen. Il va aller même jusqu'en Russie. Il va être tout autour des lacs de Russie et il va évangéliser. Et on raconte, et là c'est pas la Bible qui raconte ça, c'est la tradition, on raconte qu'il va être crucifié sous l'empereur Néron pour une bonne raison, c'est qu'il va, si vous voulez, dans la région où il était, il va convertir la femme du proconsul romain, et le proconsul romain n'est pas du tout content. Va le juger pour le mettre en croix. Et il va, selon la tradition, mettre 2 jours à mourir sur une croix. En croix, vous savez, croisée comme ça, c'est pour ça qu'on appelle la croix de Saint-André. Hein, donc, et donc, pendant son martyr, il ne va pas arrêter de prêcher la parole de Dieu autour de lui. Hein, et il a tellement de puissance dans cette parole que les gens vont se révolter contre le proconsul et vont demander qu'on détache André et qu'on lui laisse la vie sauve, mais il sera trop tard, il sera mort. Donc vous voyez, un personnage intéressant parce qu'il fait partie bien sûr de la famille de Pierre, l'apôtre, hein. Tous les deux sont des frères de sang, hein. Ce sont des frères. Et donc on va revenir sur ces épisodes et ils nous montrent beaucoup de choses. On voit ça en Jean, chapitre 1, versets 35 à 40. Jean le Baptiste se tenait là, ainsi que deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui se traduit par maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et voyez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. On voit donc Jean-Baptiste hein, qui rend témoignage, un témoignage fidèle à Jésus, annonçant aux gens que c'est en Jésus qu'il faut croire, que c'était lui la vraie lumière du monde. Et Jean-Baptiste avait été rendu capable de comprendre les perfections divines et humaines du Fils de Dieu devenu homme, et il se hâtait d'expliquer ça aux gens qui étaient autour de lui, à ses disciples propres, et son désir était d'attirer d'autres cœurs vers Jésus, pas vers lui. Et c'est un petit peu aussi notre souhait à nous, non pas d'attirer des gens à nous ou à une dénomination, mais d'attirer des gens à Jésus. Et donc ce témoignage, je dirais, désintéressé de Jean-Baptiste, eh bien, amène ses propres disciples à lui, à Jean-Baptiste, à le quitter et à rejoindre Jésus. Et donc, c'est d'ailleurs un danger fréquent que Paul va dénoncer lorsqu'il s'adresse aux anciens d'Éphèse. Hein. Il dit, vous n'êtes pas ni de Paul, ni d'Apollos, vous êtes de Jésus-Christ. Le vrai ministère de celui qui parle pour Dieu, c'est d'amener les âmes au Christ. Et ces deux disciples qui avaient entendu le jour précédent un témoignage encore plus complet au sujet de Jean-Baptiste, eh bien, celui qui ôte les péchés du monde, c'est Jésus. Et Jésus, il voit ces deux jeunes gens le suivre. Et avec le désir, on voit bien quand quelqu'un veut nous parler, il nous regarde un peu et il nous suit. Eh bien, Jésus voit ça. Et donc, avec bienveillance, il leur demande... Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? Jésus sait très bien ce que cherchent Pierre et André, mais il leur pose la question, que cherchez-vous ? Et Jésus, finalement, nous adresse la même question à chacun d'entre nous, et la réponse que nous donnons est d'une importance capitale. Que cherchez-vous ? Quel est le but de votre vie ? Est-ce que c'est d'acquérir de l'argent, de chercher les plaisirs ou la considération des autres ? Quelle est la place que le Seigneur occupe vraiment dans vos affections ? Que cherchez-vous ? Et les deux disciples qui voulaient au début simplement un petit peu comme, excusez-moi l'image, quand on va à l'office du tourisme pour trouver un petit peu ce qu'il y a de beau à voir dans une ville, ils sont là, ils n'osent pas trop, ils posent la question. Peut-être leur intention c'était simplement de savoir qui était Jésus. Peut-être leur intention, c'était d'aller le visiter un petit peu plus tard, mais il les invite immédiatement. Venez et voyez. Et donc, aucun argument ne peut résister à cette invitation, qui bien sûr nous concerne tous. Venez et voyez. Et c'est un petit peu la même chose quand nous sommes réunis à deux ou trois en son nom. Il est là, au milieu de nous. Alors, est-ce que nous sommes habitués à être en compagnie autour du Seigneur ? Alors, quand ces visiteurs l'ont vu et entendu, ils lui sont acquis pour toujours. André et Pierre, malgré leurs faiblesses, on connaît les faiblesses de Pierre, eh bien, ils sont acquis à Jésus. Et la vraie foi qu'ont ces deux personnages, eh bien, c'est la confiance du cœur, qui va naître et qui va se nourrir dans le contact personnel avec le Sauveur. Et bien sûr, ce n'est pas encore le moment où André sera amené à se consacrer au service du Seigneur, mais on peut dire qu'il s'agit dès maintenant de la naissance de l'Église, la réunion autour de Jésus. Alors, la 10e heure, à l'époque, c'était à peu près 4 heures de l'après-midi, le soir approchait. Et donc, on peut se poser la question, quel temps avons-nous vraiment passé pour le Seigneur aujourd'hui ? Vous qui êtes là, eh bien, vous avez passé du temps avec lui. Mais dans la semaine, quel temps passons-nous avec le Seigneur ? Et d'ailleurs, ce souvenir, car Jean, l'évangéliste, est là, il voit ce qui se passe, va laisser un souvenir inoubliable. Et peut-être c'est sûrement lui, l'autre disciple qui n'est pas mentionné. Voilà la première rencontre d'André. L'homme courageux qui va à la recherche de Jésus. Et il ne va pas se contenter de faire ça, il va aller prévenir autour de lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean parler de lui et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et il les mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas ». Alors après ces heures passées avec Jésus, hein, il y a probablement André et Jean, et André se met avec empressement à rechercher son frère. Et il lui annonce la grande nouvelle. « Nous avons trouvé le Messie. C'est celui que l'on attendait depuis des siècles pour la consolation d'Israël. » Alors avant de penser à quelque activité qui soit, André cherche son frère. « Il faut que je le prévienne. » Et donc, c'est un petit peu aussi une pensée pour nous, penser à ceux de nos proches qui ne connaissent pas encore le Seigneur. André, finalement, est un disciple effacé. Mais le service qu'il a accompli ce jour-là aura de grandes conséquences. Son frère Simon-Pierre, celui qu'il mena à Jésus, deviendra l'apôtre Pierre. André, je dirais le sans grade, celui dont on ne sait même pas. En faisant cette étude-là, je me suis rappelé, ah oui, c'est lui qui a fait ça. J'avais complètement oublié que c'était lui qui avait amené Pierre à Jésus. André, finalement, représente ceux qui, ayant trouvé le Seigneur pour leur propre compte, éprouvent le besoin pressant de l'annoncer aux autres. Il ne peut pas faire autrement. Et il va amener aussi d'autres personnes à Jésus. On voit ça dans d'autres passages de l'évangile de Jean. Alors, est-ce que nous ressemblons à André? Est-ce que notre besoin pressant, c'est d'aller annoncer que nous connaissons le Sauveur? Un autre épisode à propos d'André, en Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. « Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. André et Pierre vivaient à Bethsaïda, la ville où ils sont nés, au bord de la mer de Galilée, et tous deux étaient finalement des pêcheurs professionnels. Le peuple d'Israël était assis dans les ténèbres, loin un peu de la lumière divine. Le peuple avait perdu tout courage, toute espérance, et c'est à ce moment-là que Dieu va envoyer celui qui est la lumière, apporter la délivrance, Jésus. Et il passe, et à son appel, saisi par l'amour que Jésus a pour eux, quelques disciples s'attachent à lui pour le suivre. Jésus voit d'abord André et Simon. Il connaît leur disposition intérieure, et l'instant est décisif. Le Seigneur va tout changer dans leur vie. Imaginez, vous êtes à votre travail, et puis... Jésus, toi, tu me suis. Et lâche tout. Ils lâchent leur filet, ils lâchent tout. Le Seigneur va tout changer dans leur vie. Ils lâchent leur filet. Ils garderont leur filet, mais ils ont trouvé un maître et ce sera pour attraper les âmes pour le Seigneur. Ils deviendront pêcheurs d'hommes. Suivre Jésus, c'est d'abord lui obéir et ensuite être enseigné. Et ces deux personnages, André et Pierre, eh bien, deviendront évangélistes et apôtres. David avait fait la même chose en son temps. Il avait été appelé d'auprès des brebis qui allaitent pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Psaume 78. Bien sûr, tous les chrétiens ne sont pas appelés à abandonner leur gagne-pain ou à renoncer aux liens de la famille, mais tous ont entendu un jour la voix du Seigneur leur dire « Venez, suivez-moi ». Est-ce qu'on a vraiment répondu à cet appel? Un autre épisode où on voit Simon et André, c'est Jésus qui va guérir la belle-mère de Simon. Le Seigneur et ses disciples se rendirent à Capernaüm, et aussitôt, en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. S'approchant, il la prit par la main et la fit lever. Aussitôt, la fièvre la quitta et elle les servait. Marc, chapitre 1, verset 21. Désormais, André va suivre avec d'autres disciples les pas parfaits du Seigneur. Il lui colle à la peau, André. Il colle Jésus. Et bien que Jésus était, avait toute autorité, toute puissance, il reste très accessible. Les apôtres, Simon et Pierre, n'hésitent pas à demander son aide pour quelque chose qui est au-delà du message que Jésus doit apporter au monde. La belle-mère de Simon est malade. Et donc, quelqu'un qui a besoin d'aide, eh bien Jésus est là. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. C'est la belle-mère de Simon qui est couchée avec de la fièvre. Jésus la fait lever en prenant sa main, et aussitôt, la fièvre la quitte. Le toucher du Seigneur l'a calmée. Son agitation est remplacée par l'activité de l'amour qui trouve son bonheur à servir. La belle-mère de Pierre, quand elle est guérie, elle se dit « Oh, qu'est-ce que c'était bien !» Et puis elle ne commence pas à discuter, non. Elle commence à servir. Elle sert. Elle a été guérie et elle sert. Et l'apôtre André fait désormais partie des 12. Or, il arriva en ces jours-là qu'il alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand il fit jour, il appela à lui ses disciples, il en choisit 12, qu'il nomma aussitôt apôtres. Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et son frère André, et puis toute la liste. Et Jésus va se rendre sur une montagne pour prier. Et pour nous aussi, c'est la source de la puissance, de la sagesse et de l'intelligence, la prière. Et Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus avait besoin d'être plus Dieu qu'il était déjà ? Jésus va passer toute la nuit à prier Dieu. Et le jour venu, il va appeler ses disciples. C'est pour ça qu'il prie. Il choisit 12 d'entre eux et il les nomme aussitôt apôtres, envoyés. Et bien sûr, parmi eux, André est nommé aussitôt après Pierre. Chacun des disciples est nommé seul. Il ne dit pas c'est un groupe. Chacun des disciples est nommé seul pour rappeler qu'un serviteur doit s'attendre directement et personnellement à son maître. Dans l'Église, ne vous cachez pas derrière l'institution, vous êtes appelé seul. Il vous connaît, le Seigneur. Ne vous dites pas, ah ben, c'est l'Église qui va arranger ça. Ou c'est... Non, c'est vous qui êtes appelé personnellement. Il faut nous rappeler qu'un serviteur doit s'attendre directement et personnellement à son maître pour recevoir la direction de sa vie et pour le secours. André, comme les autres, eh bien, va être formé et envoyé avec la puissance qui lui est accordée. André aussi se posera des questions. Il va poser, il va questionner Jésus au sujet de la destruction du temple de Jérusalem. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quel bâtiment !» Jésus lui répondit « Tu vois ces grands bâtiments, il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée à terre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent en privé. « Dis-nous quand ces événements auront lieu et quel sera le signe quand ils seront sur le point de s'accomplir ?» Et à plusieurs reprises, on voit ce cercle plus intime autour du Seigneur et c'est souvent, on cite Pierre, Jacques et Jean. Et puis, le quatrième disciple, André, est présent. Et les disciples, finalement, sont impressionnés par la grandeur et la beauté du bâtiment. Et ça devait être quelque chose d'extraordinaire que de voir ce temple à Jérusalem avec toutes les richesses. Mais le Seigneur ne regarde pas ce que l'homme regarde. Et il leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi. » Et c'est vrai que Jésus avait même constaté toute l'iniquité qui remplissait le temple. Et aller aboutir à la ruine de la cité de Jérusalem. Un des épisodes aussi dont on oublie parfois comment ça s'est passé, c'est la multiplication des pains. Hein. Souvent, on s'attarde sur le fait qu'avec 5 poissons et 5 pains, tout le monde va être rassasié. Mais souvenez-vous, qui a été chercher le petit garçon qui avait ses 5 poissons ? C'est André. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrons-nous acheter des pains afin qu'ils mangent ?» Jésus, il est un petit peu facétieux. Hein. Il demande, « Chez quel boulanger, chez quel poissonnier, on va l'acheter tout ça ?» Mais il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Des pains pour 200 deniers ne leur suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit « Faites asseoir les gens. » Ils s'assirent donc, les hommes, au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, puis après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. C'est vrai que les foules suivaient Jésus, peut-être plus attirées par sa puissance que par sa grâce et par ses perfections morales. Mais en voyant cette grande foule, Jésus s'enquiert cependant, et il va profiter de ça pour mettre à l'épreuve Philippe. Où est-ce qu'on nous achète, allons-nous acheter tous ces pains ? Et Philippe, il se montre incapable de supporter ce test. Il commence à faire des calculs dans sa tête. Bon, alors, un pain, ça coûte ça. 200 deniers. Même avec ça, on n'arriverait même pas à les nourrir. Sa foi est insuffisante à Philippe pour s'appuyer simplement sur le Seigneur. Et il va supputer avec raison que les 200 deniers ne seront pas suffisants. De toute façon, aucun des disciples n'avait jamais eu cette somme sur eux. Et c'est André qui se montre, encore une fois, sous un meilleur jour que Philippe. On a l'impression qu'il est toujours prêt à intervenir dans les cas difficiles. C'est un tempérament actif, alors c'est peut-être le tempérament de feu, peut-être. Il s'est déjà sûrement informé qu'il y a un petit garçon avec 5 poissons et 5 pains. Il dit, il n'y a que ça, de toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. C'est là le tempérament de feu. Et il s'adresse au Seigneur. Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Mais André ne paraît pas sans espoir. Il sait, probablement, il a déjà vu des tas de choses que Jésus a fait, que Jésus peut faire, peut intervenir. Et sûrement, il est en train de nous dire, nous ne pouvons rien, Seigneur, mais toi, tu peux tout. C'est encore André qui va faire l'intermédiaire entre les Grecs et Jésus. Il y avait des Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et lui demandaient, « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André. Puis André, ainsi que Philippe, ils en parlent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous le dis, à moins que le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est vrai que Philippe est sûrement étonné de voir des gentils exprimer le désir de voir Jésus. Et il vient, et puis il va le dire à André. André a l'impression que c'est vraiment le gars qui est là, l'intermédiaire qui va dans les moments difficiles. Et André va aller le dire à Jésus. André a encore un rôle d'intermédiaire en introduisant les gentils auprès du Seigneur. Il est finalement le premier missionnaire. Il était le premier apôtre appelé et il devient le premier missionnaire. Et je crois qu'il a une relation heureuse avec Jésus. Et Jésus va les enseigner. Jésus veille toujours pour instruire ses bien-aimés. Et il doit faire bon vivre à côté de Jésus. Et est-ce que nous avons aussi, nous, le désir de jouir continuellement de sa communion ? Est-ce que nous sommes contents lorsque nous pensons à lui, lorsque nous essayons de lui ressembler ? Un autre moment de la vie d'André, et ce sera le dernier moment, quand Jésus est élevé dans la gloire lors de l'ascension, André est aussi présent dans la chambre haute, avec ceux qui persévèrent dans la prière. Alors ils retournèrent à Jérusalem, du mont appelé Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jean, Jacques et André. Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée et Simon Zélote, ainsi que Jude, frère de Jacques. Tout ceci persévérait d'un commun accord dans la prière avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Après la croix, après l'élévation de Jésus, les disciples retournent à Jérusalem et montent dans cette chambre haute où demeuraient, bien sûr, Pierre, Jean, Jacques et André. et tous persévéraient dans la prière. André est là avec eux, son nom est cité pour la dernière fois. C'est la dernière fois qu'on va parler d'André dans ce récit de l'histoire du premier chapitre des Actes. Et cette chambre haute, elle est souvent mentionnée, hein. C'est un lieu retiré, probablement, en dehors du monde et de son agitation. Et c'est là que les disciples peuvent librement faire monter leurs prières et s'entretenir de leur salut. Ils ont compris. Aujourd'hui encore, eh bien, nous avons, comme ce matin, le privilège de nous réunir pour chercher à réaliser, malgré l'absence corporelle de Jésus, la présence de Dieu et de Jésus avec nous dans cet endroit retiré. Et l'exemple d'André, il est vraiment à imiter. Il faut chercher, comme lui, à amener les âmes au Seigneur, à saisir toutes les occasions d'aider et constamment à tout dire à Jésus. Vous voyez, André a un problème, les Grecs viennent le voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas dire « Ah, on va tenir un conseil pour savoir si on peut lui... » Ce n'est pas digne que des Grecs, des impies puissent parler à Jésus. Non, il va voir tout de suite Jésus, tout de suite. Il ne cherche pas à comprendre. Et dans cette histoire, finalement, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il y a un passage en Michée, chapitre 6, verset 8, d'ailleurs, qu'on chante. « Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà quel est l'exemple qu'André nous montre. Et j'espère qu'un jour, on nous dira « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en ce qui est peu, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » André, c'est l'un des 12 disciples, bien évidemment Jésus, bien moins connu que Jean ou que Pierre. Il n'est pas l'auteur d'un évangile, ni d'une épître. On parle très peu souvent de lui, simplement à 3 occasions, je vous les rappelle. Quand il fait connaissance de Jésus, son premier souci, c'est de trouver son frère Simon et de le mener à Jésus. Et donc Simon, qui deviendra l'apôtre Pierre. Dieu va se servir d'un disciple humble et effacé pour amener à Jésus celui qui sera un apôtre plus connu dans la suite. Il faut que nous restions à l'écoute du Maître, disponible pour être humblement à son service. Jésus a commandé à ses disciples de nourrir une foule affamée, mais les disciples n'ont rien. Alors André parle à Jésus d'un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est peu, mais il le signale quand même, puisque Jésus est là, tout peut s'arranger. Grâce à lui, les petites ressources de l'enfant sont confiées à Jésus qui les multiplie. La foule est nourrie et rassasiée. Et peu avant la mort de Jésus, des Grecs expriment le désir de le voir. Ils s'adressent à Philippe qui en fait part à André. Et ensemble, ils en parlent à leur maître. C'est donc encore par le moyen d'André que les Grecs sont amenés à Jésus. C'est pourquoi les interventions simples et discrètes d'André, eh bien, sont à l'origine de grandes bénédictions. Cherchons pas à être connus comme André, accomplissons simplement et fidèlement les petites choses que le Seigneur met à notre portée et laissons-lui le soin d'en tirer une riche bénédiction. André est quelqu'un qui est fantastique parce qu'il a su, dans son humilité et le fait que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, hop, tout de suite, on va à Jésus. Eh bien, faisons la même chose. Amen.
Et ce que l'Éternel demande.